Europe 1. Sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour deux heures d'histoire où la rigueur et le rire vont main dans la main sous la houlette d'un garçon dont la rigueur n'est certes pas le point fort, mais qui rit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Écoutez, je suis étonné de vous retrouver comme ça, absolument pas équipé. Où est votre peau de chamois, votre bidon et pourquoi n'êtes-vous pas intégralement épilé? Vous savez qu'aujourd'hui, on enfourche la bicyclette, Stéphane.
Non, mais c'est vrai ou j'avais la tête
quand on partait sur les chemins.
Oui, 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 cet après-midi. Alors, ça devrait me faire plaisir. On réunit des reines de la petite reine. Dès qu'il y a des reines, moi, je me ris dessus.
Content.
Alors, à commencer par celle qui fut la première femme à tenter de faire le tour du monde en vélo. Et vous savez quoi? Au bout de 15 mois, elle a réussi. Je vous raconte la vie d'Annie Londonderry. Puis, elle aussi, elle a marqué l'histoire de la petite reine, l'italienne Alfonsina Strada, qui a pris le départ d'une course célèbre, le Giro, réservé aux hommes. Ou la folle histoire du diable en jupon, comme elle était surnommée par ses adversaires. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'une reine du vélo qui est toujours parmi nous.
La seule, l'unique, le plus beau palmarès du cyclisme français et peut-être certainement à jamais, Jeannie Longo. Ça fait quelque temps que vous n'avez plus entendu parler d'elle. Vous vous dites peut-être, Jeannie Longo, elle a couru jusqu'à 50 ans passés, mais maintenant elle doit planter des choux dans le Vercors. Pensez-vous, le mois dernier, au lieu de planter des choux, elle a encore été sacrée championne du monde à 63 ans. Retour sur un phénomène sur qui le temps ne semble pas avoir de prise.
Bah c'est comme pour elle.
Non.
Ah oui.
Oh, la transition
avec nous
délicate.
Comme chaque jour, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes semaines. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Le temps n'a pas de prise sur vous.
Mille flagorneurs. Alors oui. Apprenez plutôt, bonjour à tous messieurs, que Alfonsina Strada, son premier vélo, son père le lui a obtenu en l'échangeant contre des poulets. Parce qu'il avait senti que sa fille aimait le vélo. Mais vous savez qu'à la fin du 19e, on ne voulait pas que les femmes fassent de vélo.
Mais
parce
non.
qu'on pensait que ça
allait les exciter.
Et ça allait les exciter, que ça serait un genre de sex toys. Et aussi que ça allait fluxionner leurs organes reproducteurs,
ah
les
oui,
rendant infécondes. Oui. C'était un gros problème. Mm. Et quand on pense à ça.
Pourtant, il y avait les selles.
Alors qu'au Moyen-Âge, il y avait déjà des femmes chevaliers, des chevaleresses. Je fais comme si je n'avais pas entendu votre blague vaseuse.
Et
bien, ça laisse songeur. Oui, voilà. Bon, je vous retrouve tout à l'heure quand vous aurez fini de rire.
Hein. Vous avez raison, on est irrécupérable.
Avec nous également, David Castello-Lopez, qui remonte aux origines de quelque chose qui fait partie de notre quotidien.
Très ancestral, hein, les origines, là, puisque c'est la semaine de 7 jours.
Oui. C'est la Bible.
Oui, c'est infiniment avant ça.
Parce que Dieu a créé le monde.
Non, c'est avant ça. Ça fait vraiment beaucoup plus longtemps encore que ça. Beaucoup plus longtemps avant.
Non, vous savez, vous.
Le découpage du temps, le découpage de la semaine, des jours, de l'année, etc. C'est très ancien.
C'est Dieu qui a créé le monde en 7 jours.
C'est Dieu. Vous avez vous dévoyez toute ma chronique. C'est Dieu.
C'est Dieu lui-même. Dieu en personne. Ah oui, je suis rassuré.
Alors, on va revenir à des choses plus prosaïques, plus prosaïques.
Passer derrière Dieu, ça va être dur quand même.
Vous êtes notre Dieu. Vous savez qu'il a été élu plume d'or de la gastronomie,
non,
Olivier.
C'est vrai. Ah, comme le ballon d'or, mais pour la nourriture.
Pour les chroniqueurs gastronomiques.
Et vous l'en remis, ils vous ont remis une plume.
Oh, quelle humilité. Vous l'avez mis.
Non, c'est pas une plume, ils m'ont remis un beau vase.
Pourquoi
ça c'est... Un beau vase lalique.
Alors, plume de quoi vous nous parlez aujourd'hui? Parce que vous êtes là à vous vanter.
Mais c'est vrai.
On ne parle pas de votre chronique.
Je vous parlais d'un dessert extraordinaire, la tarte au citron meringuée.
Oui, parce que la meringue sucrée compense l'acidité.
Et oui,
du
citron. Tout est dans l'équilibre magistral de cette invention. Vous verrez, un peu étonnante.
Enfin, avant les tartes au citron, les tartes dans la poire. Burn to be alive. Notre quiz mouvementé, ce sera comme d'habitude de l'entour de 5h moins le quart. Mais d'abord, découvrons, sans plus attendre, notre premier personnage du jour.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, elle en a emprunté de nombreux chemins, avec un objectif fou, faire le tour du monde à bicyclette. Une première, Stéphane Bern nous raconte la reine de la petite reine, Annie Londonderry.
Nous sommes le 25 juin 1894 à Boston. En cette chaude journée d'été, près de 500 personnes se sont rassemblées devant les marches du palais du gouverneur de l'état de Massachusetts pour tenter d'apercevoir celle dont le nom est sur toutes les lèvres, Annie Londonderry. À 24 ans, elle est sur le point d'accomplir un exploit, devenir la première femme à faire le tour du monde à vélo. Vers 11h du matin, Annie Londonderry arrive en calèche. Silhouette svelte, simplement vêtue d'une longue jupe sombre, d'une veste de tailleur bleu foncé avec des manches bouffantes, des gants et un chapeau plat sous lequel ses cheveux sont attachés en un chignon serré. À côté d'elle se tient une amie qui prend la parole clamant à la foule sa conviction que la femme devrait avoir les mêmes chances que les hommes. Puis quelqu'un tient le vélo d'Annie Londonderry pour l'aider à monter en selle. La voilà qui prend la route. Elle ne reviendra pas à Boston avant 15 mois, au moins. Sur le papier, personne n'aurait parié un penny sur Annie Londonderry, de son vrai nom Kopaczewski, pour ce tour du monde en solitaire. Née en Lettonie en 1870, elle émigre en Angleterre avec ses parents, lorsqu'elle est encore une enfant. À leur mort, Annie n'a que 17 ans et doit prendre soin de sa jeune sœur Rosa et de son frère Jacob. Dans la foulée, elle se marie et sa première fille naît 9 mois plus tard, suivie bientôt de 2 autres enfants. Tout en veillant sur sa famille, Annie Londonderry travaille comme commerciale. Elle vend des encarts de publicité pour plusieurs journaux de Boston. Bientôt, la jeune femme se lasse de cette routine. Alors qu'elle n'est absolument pas une cycliste aguerrie, Annie décide de tout quitter pour faire le tour du monde. « Je ne voulais pas passer ma vie à la maison à pondre un bébé tous les ans », dira-t-elle plus tard. Pour Annie Londonderry, le vélo devient vite un outil de liberté. Au XIXe siècle, ce moyen de transport révolutionnaire commence doucement à se populariser. Il offre aux femmes aisées davantage d'autonomie en leur permettant d'aller où elles le souhaitent, quand elles le souhaitent. C'est une formidable avancée pour le féminisme à une époque où les femmes n'ont pas encore obtenu le droit de vote. Annie prend son envol le 25 juin 1894 à Boston. Elle n'a pas un sou en poche, seulement quelques vêtements de rechange et tout de même un revolver pour se protéger. Pourtant, elle fait le pari de faire le tour du monde seule, en 15 mois seulement. Pourquoi la jeune femme se lance-t-elle ? Sans doute le goût de l'aventure, mais aussi l'attrait de la célébrité. Les grands voyages sont à la mode. Le fameux « Tour du monde en 80 jours » publié par Jules Verne inspire de nombreux aventuriers. En 1889, la jeune journaliste Nelly Bly réussit l'exploit de parcourir le globe en 72 jours seulement, nous l'avons raconté ici à ce micro. Quant au reporter de presse britannique Thomas Stevens, il est le premier à faire le tour du monde à bicyclette. Ses exploits sportifs passionnent les foules et sont très largement relayés par la presse. La maligne Annie Londonderry compte bien profiter de ce battage médiatique pour faire son auto-promo et aussi et surtout gagner beaucoup d'argent. Au départ de la course, le représentant d'une marque de bouteilles d'eau, la Londonderry Lithia Spring Water Company, lui remet 100 $, une grosse somme hein, pour l'époque. En contrepartie, elle doit attacher une pancarte publicitaire à la roue arrière de sa bicyclette et utiliser le patronyme Londonderry tout au long du voyage. C'est d'ailleurs sous ce nom qu'elle passera à la postérité. Dès le début de son périple, Annie Londonderry avance très lentement. Elle peine parfois 9 heures dans une journée sur des routes de gravier qui constituent un obstacle de taille pour une jeune femme qui n'a presque jamais fait de vélo, à l'exception de quelques leçons avant son départ. Mais Annie Londonderry s'accroche. Partie en jupe longue et sur un vélo de femme pesant environ 20 kilos, elle opte dès son arrivée à New York pour une tenue plus adéquate au pédalage sur de longues distances, un pantalon et une bicyclette masculine plus légère et plus maniable, ce qui fait froncer quelques sourcils et lui vaut des critiques misogynes. De New York, Annie Londonderry prend la direction de Chicago, mais se rend compte qu'elle n'aura pas le temps de traverser les montagnes avant l'hiver. Cet épisode en dit long sur l'amateurisme de la cycliste qui a, pour tout dire, assez mal préparé son voyage et doit donc changer d'itinéraire. Annie Londonderry s'embarque pour la France où les médias relaient son exploit. À Marseille, plus d'un millier de personnes attendent pour la voir. Cet engouement n'est pas surprenant car la voyageuse est une conteuse hors pair capable d'inventer les plus folles histoires pour asseoir sa popularité dans les journaux de l'époque. Au cours de son périple français, Annie Londonderry prétend tour à tour être étudiante en droit, héritière fortunée, cousine d'un membre du Congrès ou nièce d'un sénateur américain. À l'écouter, son voyage est sacrément mouvementé. En Inde, elle prétend avoir chassé le tigre avec un membre de la famille impériale prussienne. Elle aurait aussi bravé la mort dans un coin perdu d'Asie où on la confond avec un mauvais esprit. En 1895, Londonderry se retrouve en pleine guerre sino-japonaise. Malgré le danger, elle décide de se rendre sur le front, où c'est une véritable boucherie. Il y a partout des cadavres d'hommes, de femmes, mais aussi d'enfants. Alors qu'elle traverse une rivière gelée, la glace se brise et Annie Londonderry tombe dans l'eau. Pire, elle est blessée par balle et capturée par des soldats japonais. En réalité, il est probable que ces aventures sortent tout droit de l'imagination de notre globe trotteuse. Annie Londonderry prétend aussi être passée par la Sibérie, mais les dates ne concordent pas. Les journaux commencent à s'interroger. Certains remarquent que la cycliste passe beaucoup de temps en mer et assez peu sur son vélo. Mais Annie Londonderry n'en a que faire. Peu importe comment j'ai atteint ces endroits, tant que j'ai obtenu les signatures des consuls dans chacune des villes comme preuve que j'avais accompli le but du voyage. Une déclaration plutôt étrange, étant donné que le but de son voyage est de faire le tour du monde à bicyclette. Cela n'empêche pas les Américains d'adorer Annie Londonderry. En rentrant par le sud des États-Unis, la voyageuse entraîne les conférences. Elle monnaie ses apparitions, vend son portrait aux admirateurs et aux admiratrices, pour lesquels elle devient un symbole féministe, une pionnière dans la lutte pour l'égalité des sexes. En Californie, Annie Londonderry pédale désormais en compagnie de Mark Johnson, un cycliste du club olympique de San Francisco. Il frôle la catastrophe lorsque leur route croise celle d'un cheval qui s'est emballé. Les deux cyclistes sont éjectés de la route et projetés contre des fils barbelés. Annie Londonderry est très secouée. Comme à son habitude, elle en rajoute, en prétendant être restée alitée des semaines à cracher du sang. Enfin, Annie Londonderry atteint Chicago, terme de son voyage, le 12 septembre 1895. 15 mois après son départ, comme elle l'avait promis. Vers 1h de l'après-midi, son vélo s'arrête devant l'hôtel Wellington. Même si elle prétend aller bien, Londonderry semble souffrir et son bras est cassé en écharpe. Son retour n'est certainement pas aussi triomphal qu'elle l'espérait. Les grands journaux n'en parlent pas et il n'y a pas foule pour l'accueillir. La grande popularité d'Annie Londonderry est passée. Elle profite toutefois des retombées de son succès pour s'installer avec sa famille à New York. La voyageuse donne des conférences et écrit des récits de voyage dans le New York World, le journal de Joseph Pulitzer. Dans l'un de ses articles, elle confie « Je suis une femme nouvelle, ce qui signifie que je suis capable de faire tout ce qu'un homme peut faire ». Malgré ses déclarations choc, Annie Londonderry sombre dans l'oubli pour devenir, semble-t-il, une brillante femme d'affaires jusqu'à sa mort en 1947. Quant à son vélo, elle n'est que rarement remontée dessus après son tour du monde. Annie Londonderry a été l'une des reines de l'histoire du cyclisme, mais reine d'un jour, ou plutôt reine de 15 mois.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler d'Annie Londonderry, nous sommes avec un passionné de la petite reine, Stéphane Dugast. Bonjour Stéphane.
Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Stéphane Dugast, vous êtes écrivain et réalisateur. Vous venez de publier un beau livre intitulé simplement « Vélo » aux éditions Glénat, dans lequel vous dressez le portrait de nombreux cyclistes, parmi lesquels on retrouve bien sûr notre Annie Londonderry. Comment avez-vous redécouvert l'histoire de cette pionnière du cyclisme féminin ?
Je dois vous faire une confession, on était au premier confinement, j'étais dans un appartement parisien, j'avais besoin de vent frais, de liberté, et j'avais entrepris de monter une aventure vélocipédique, bref, de traverser la France à vélo, et j'ai voulu enquêter sur l'histoire du vélo, parce que je pressentais que cette histoire était encore parcellaire, il y avait ces histoires, il y avait Annie Londonderry, ça allait jusqu'à Bernard Hinault, ça allait même jusqu'au vélo électrique, et donc du coup j'ai passé des nuits et des nuits à d'abord enquêter sur internet, puis ensuite à lire la littérature de vélo qui est riche et instructive.
Et vous expliquez qu'à partir des années 1860, les femmes sont de plus en plus nombreuses à pédaler, à l'instar d'Annie Londonderry, notre personnage. Pourtant, certains médecins s'alarment de les voir sur la selle d'un vélo. Qu'est-ce qu'elles risquent, selon eux, à l'époque ?
Alors, déjà, on s'alarme parce que elles sont dans des positions qui sont jugées inconvenantes. On s'alarme puisque la position sur la selle serait propice à certaines libidations. Et puis, surtout, en arrière-plan et en filigrane, on s'alarme puisque la femme est en train d'acquérir une liberté. Elle est en train de sortir de son quartier, elle peut chevaucher sa bicyclette, aller loin et on n'a plus de prise sur la femme.
Surtout que, en fait, les femmes ne portaient pas de pantalon.
Donc,
c'est difficile. On montait à cheval en Amazone, mais c'est difficile sur un cheval de pas être galifourchon.
Ah oui, effectivement.
Alors, je le racontais, Annie Londonderry bouscule les codes en laissant de son côté son rôle d'épouse et de mère pour explorer librement le monde à vélo. On peut dire que c'est une invention qui a vraiment favorisé l'émancipation des femmes. Vous expliquez par exemple que, je le disais pour les vêtements, mais c'est vrai, c'est qu'à partir de ce moment-là, les femmes ont eu le droit de porter le pantalon à condition d'être à vélo.
Tout à fait, et les femmes ont été inventives, elles se sont battues beaucoup au Royaume-Uni où certaines femmes, et c'est concomitant aux suffragettes, vont abandonner la robe et mettre le pantalon, le bloomers, ce pantalon bouffant qui va leur permettre de faire du vélo de façon plus appropriée, de façon plus facile, on l'a vu avec Annie Londonderry. Et en France, on est un petit peu plus éclairé, encore que, au départ, ces dames font du vélo au Bois de Boulogne ou en haut, on imagine en haut du rond-point de l'Étoile, aux Champs-Élysées, et en France, en fait, en France, contrairement aux États-Unis, on profite d'un pavé qui est assez luisant et d'un pavé qui permet de faire de la draisienne au départ et de faire du vélocipède de façon beaucoup plus aisée, alors qu'aux États-Unis, les routes américaines sont des routes pleines de trous, pleines de cailloux, pleines d'ornières et c'est beaucoup plus difficile.
Comme Annie Londonderry, vous êtes, Stéphane, un aventurier dans l'âme. Vous avez effectué un périple à vélo. C'était à l'été 2020, 2200 km entre Dunkerque et Hendaye en 40 jours. Qu'est-ce que ce moyen de locomotion aide plus que les autres pour vous ?
Ce moyen de locomotion, je pense que c'est une allégorie de la vie, puisque sur un vélo, parfois c'est grisant, parfois c'est facile, parfois c'est difficile. Mmh. Et puis surtout, ça exacerbe vos sens. Vous êtes à une vitesse où vous pouvez voir défiler les paysages, et surtout quand vous traversez la France à vélo, voir ces différents terroirs, puisqu'on a cette chance dans notre pays, on fait 60, 70, 80 kilomètres, et on change complètement de terroir, on change d'architecture, on change d'agriculture. Et puis surtout, en termes de senteur, en termes de vue, en termes d'odorat, il y a quelque chose. Et en plus, il y avait eu l'outrecuidance de pédaler avec un maillot jaune. Donc,
pour vous donner du courage.
Alors, c'était le rêve d'être Bernardino, Bernardino que j'ai jamais été. Et c'était surtout aussi un moyen d'attirer l'attention. Comme ça, en jaune, j'étais vu sur la route. Et surtout, quand je m'arrêtais dans un troquet, sur une place de village, souvent, j'arrivais à initier la discussion parce que le maillot jaune, c'est un langage universel.
C'est sûr. Est-ce que justement, un tour du monde à vélo est prévu, Stéphane? Il faut aller plus loin, la France, finalement. Vous l'avez fait maintenant, il faut faire le monde.
Non, la vraie difficulté maintenant de faire ces grandes traversées, c'est d'éviter les grandes villes, parce que les grandes capitales et les grandes villes sont des, comment vous dire, avec des 4 voies, des 6 voies, etc. Mmh. Alors c'est en train de changer, on le voit au Danemark, on le voit à Londres, on le voit à Berlin, on le voit à Paris, mais ailleurs dans le monde c'est plus compliqué. Non, mais des projets sur des routes moins fréquentées et pour aller voir des paysages, parce que l'avantage de ce vélo, c'est la liberté, c'est d'être dans la nature.
D'ailleurs, dans votre livre Vélo, vous retracez l'histoire de ce qu'on appelait autrefois le vélocipède et qui est, je vous cite, certainement l'une des plus belles inventions de l'humanité. Alors, à qui les coureurs cyclistes, les vélotaffeurs et autres pédaleurs du dimanche doivent-ils cette fabuleuse invention ?
Chaque pays revendique l'invention du vélo. En tout cas, l'Allemagne avec la draisienne et un baron qui s'appelait Karl von Dress. La Grande-Bretagne, puisqu'ils ont mis au point la chaîne de vélo. Enfin, c'est une invention, c'est deux roues, une chaîne, un pédalier, qui somme toute sont assez simples, mais c'est pendant cette révolution industrielle en 19e siècle, et notamment en France avec un père et un fils, Ernest et Pierre Michaud, des Parisiens qui sont serruriers de profession, qui vont mettre au point des pédales pour que le vélo puisse avancer, ça ne soit plus une draisienne. Et puis on a un ancien, Pierre Lallemand, qui lui aussi a cette idée, qui est en concurrence totale avec les Michaud, qui va s'exiler aux États-Unis et vendre son concept à un grand pape du vélo, qui est Auguste Pope. Et on voit qu'en fait, c'est toutes ces avancées et toute cette compétition qui est féroce au cours de la deuxième moitié du 19e siècle, qui va permettre d'avoir le vélo qu'on connaît, ces deux roues de la même taille, une chaîne, des freins. Il n'y a pas encore de dérailleur, ça arrivera dans les années 20, dans les années 30, et le dérailleur c'est un peu le boîtier de vitesse d'une voiture et ça va tout changer. Mais bref, la bicyclette, le vélo, en plus dans la langue française on a deux mots, on a un mot féminin pour le désigner, puis un mot masculin, et on peut dire que le mot masculin désigne un petit peu plus la compétition, et à bicyclette c'est Yves Montand, on est plus dans la balade.
Et justement, on parlait de l'invention du vélo au début du 19e. Comment l'usage du vélo s'est transformé depuis ses débuts ?
Au début, c'était vraiment un loisir réservé à ces dames de la haute société. On était avec des grands billes, cette grande roue et cette petite roue à l'arrière. Et le fait que le vélo va s'industrialiser, en tout cas que les processus vont s'améliorer, on va permettre de produire ce vélo en grande série, le vélo va devenir aussi l'apanage des gens qui ont des moyens, donc d'abord les bourgeois, puis ensuite le vélo va pénétrer toutes les strates de la société, l'armée va l'utiliser pendant la Première Guerre mondiale, alors certes de façon sporadique, nos amis suisses, eux, auront carrément une unité à vélo, et ce, pendant pratiquement un siècle, et ensuite, pendant l'entre-deux-guerres, c'est le tandem, c'est le vélo du Front Populaire, ensuite, pendant la guerre, c'est le vélo de la Résistance, et ce vélo, jusqu'en 1945, va être quelque chose d'ultra-populaire, et surtout un moyen qui va permettre aux gens qui, grosso modo, jusqu'au début du XXe siècle, il y a 80% des gens qui sortaient pas d'un rayon de 100 km dans leur vie. Hein.
Et mieux, ça a lutté contre l'endogamie dans les villages, parce que...
D'ailleurs, on pouvait aller draguer dans d'autres villages.
Oui, exactement.
Pratique.
Non, mais pour les gens, oui, qui n'avaient pas les moyens, c'est vrai que Stéphane Dugas a tout à fait raison. Alors, Stéphane, on parle de la reine de la petite reine qui était Annie Londonderry. Pourquoi est-ce qu'on surnomme ainsi la bicyclette la petite reine? Racontez-nous cette anecdote.
Bah, c'est une belle histoire, parce qu'il y a deux sources. La première, Pierre Giffard, qui est à la tête d'un journal et qui a créé la course Paris-Brest-Paris, et de façon concomitante, une jeune reine, Willem d'Orange, une reine en Hollande, et qui est jeune, qui a 10 ans, qui se déplace à bicyclette pour aller voir ses sujets, et qui vient souvent à Paris. Et parce que Pierre Giffard a fait un livre qui s'appelle La Reine Bicyclette, parce qu'il y a cette petite reine, la bicyclette va devenir la petite reine, va devenir cet élément un peu féminin, plein de sensualité, et va pénétrer toutes les strates de la société avec plein de poésie, je trouve.
Vous expliquez que le vélo est devenu un élément phare de la pop culture grâce à E.T. l'extraterrestre, le film de mon enfance.
Ben oui, moi je suis enfant, je regarde E.T., je vois Elliot s'envoler avec son BMX et avec E.T. à son bord avec la lune derrière. Il y a des courses-poursuites complètement incroyables et invraisemblables. Et là, on est dans un vélo qui, dans les années 80, permet d'aller sur les graviers, permet d'aller dans les chemins, permet de faire des sauts, permet de prendre des bosses. Et le vélo devient beaucoup plus amusant, beaucoup plus fun. Ensuite succédera le VTT qui permet d'aller rouler dans les forêts, de faire de la descente. Bref, le vélo est complètement démocratisé, et puis surtout le vélo devient un sport un peu comme le ski acrobatique, le ski de descente devient quelque chose de grisant qui permet d'être dans la nature et d'avoir du vent dans les cheveux.
Stéphane, à l'heure de la transition écologique, le vélo est un moyen de locomotion idéal qui fait de plus en plus d'adeptes. Finalement, l'avenir est au vélo.
Pour moi, l'avenir est au vélo, est à la combinaison du vélo, des transports en commun. On le voit dans plein de centres-villes, le fait d'avoir réouvert des pistes cyclables. Alors évidemment, il faut que les cyclistes et les usagers soient un petit peu plus respectueux parfois du code de la route et respectent mieux les piétons, mais il n'empêche que d'emprunter des voies jusqu'au Mont-Saint-Michel ou jusqu'à Londres permet de voir, de vivre la vie différemment, puis surtout de discuter avec les gens et d'être en interaction avec eux. C'est ce qui est sympa, parce que vous êtes forcément, quand vous êtes à vélo, vous êtes plus sympathique que quand vous êtes à bord d'une grosse automobile, puisque la discussion s'engage. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé pendant ma traversée vélocipédique.
Et là, on me dit que vous êtes en terre de feu au Chili. Vous êtes à vélo ?
Non, je suis malheureusement pas à vélo, mais je vais être en bateau. Ça, c'est une de mes autres passions. Donc, et je vais normalement voir une éclipse solaire qui a lieu aux péninsules antarctiques. Donc là, je suis pratiquement au bout du chemin. Je prends le bateau et si tout va bien, je vais me prendre pour Tintin et enfin voir une éclipse solaire de mon vivant. Parce que la prochaine en France est en 2084.
Ah, oui, il y a peu de chances qu'on y assiste, nous.
Voilà.
En tout cas, on recommande. Merci beaucoup, Stéphane Hugas, d'avoir pris un peu de temps pour nous. Je rappelle votre livre « Vélo » aux éditions Glénat. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Merci Stéphane, merci Mathieu. Et ça roule.
Ça roule.
Et bonne route.
Bonne route à vous.
Ici Europe 1. 16h-18h
sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Tous les jours des 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires où, comme en vélo ou à vélo, ça grimpe souvent. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, point de vélo, mais c'est à cheval que vos héroïnes du jour montaient. Des femmes chevaliers qu'on appelait alors des chevaleresses.
Ouais, je sais pas comment j'aurais fait, parce que moi j'ai peur des chevaux. Hein.
C'est vrai?
Vous n'êtes jamais monté à cheval?
Si, je suis sur plusieurs fois, mais ça s'est toujours mal passé. Et donc une fois, pour les besoins d'une émission de télé, c'était à Aigues-Mortes et on voulait que je fasse Marguerite de Provence saluant les croisés. J'ai dit pas du tout, moi je suis où un croisé à cheval avec la musique de Thibaut des Croisades ou rien du tout. Donc on m'a hissé sur un canasson.
La meuf pas chiante sur un tournage.
Ah, c'est un grand souvenir. Oui, mais vous savez, au XIVe siècle, en tout cas avant, en dehors des moments où les femmes, dans les chansons de gestes, elles remettent au chevalier ses armes quand il part à la croisade, aussi elle lui remet son épée, son haume, etc. Mais la femme a un rôle exclusivement passif. Colette Baume, la médiéviste, écrite à ce sujet, les femmes, elle reprend les propos, les considérations d'époque. Hein. Les femmes sont inaptes à la guerre, leur corps est faible, leur raisonnement limité, leur caractère peureux. De plus, la femme mineure perpétuelle ne saurait commander à des hommes adultes ni avoir sur eux la moindre autorité. Mais les choses vont beaucoup changer au 14e.
C'était avant Jeanne d'Arc.
Ça, c'était tout à fait. Ah, bravo, bien vu. Un bon point. Les choses changent du tout au tout.
Parce qu'elle distribue des bons points et des images maintenant.
Oui, je pense que j'ai apporté aussi mon martinet. Bon, avec les débuts de la guerre de Cent Ans, tout change. Parce que l'ensemble de la société se militarise. Il y a un état de guerre permanent qui entraîne l'absence des hommes. Parfois très longue, pendant des mois, des années, parfois définitives. Donc, les femmes sont obligées de s'occuper de leur fief et pour 10, 30 ans pendant l'absence des messieurs. Il y a eu la saignée démographique de la Grande Peste de 1348. Donc, on manque d'hommes, on manque de bras, aussi bien pour cultiver que pour combattre. Sur les champs de bataille, bataille, comme les seigneurs sont partis, ben on met les bâtards. Et quand il n'y a plus de bâtards pour remplacer les fils légitimes, eh ben on met les paysans qui complètent les troupes insuffisantes. Et s'il n'y a plus de paysans, on met des mercenaires. Et finalement, s'il n'y a plus de mercenaires, qu'est-ce qui reste? Il reste les femmes qui donc elles aussi sont entraînées dans ce mouvement. Bon, bien sûr, pas question pour les femmes de combattre en champ ouvert. Ça, c'est strictement interdit. Mais en temps de guerre, il y en a des choses qu'une femme peut faire. Défendre une forteresse, nourrir, soigner, maintenir l'ordre, collecter des rançons, négocier des traités et bien sûr tenir un siège. Parce qu'il faut savoir qu'au XIVe siècle, en temps de guerre, il y a deux exceptions pour les femmes. Il y a d'abord les croisades. Devant Dieu, une femme autant qu'un homme peut se croiser. Tout chrétien a le devoir de se croiser. Donc c'est alors que dans l'Hexagone, on va vous dire non mais vous êtes une femme, vous allez quand même pas monter à cheval, vous allez pas vous battre. Devant Dieu, on peut pas vous interdire d'aller vous battre pour délivrer le tombeau du Christ. Donc Régine Pernoud nous raconte dans La Femme au temps des cathédrales que se croiser est un devoir y compris pour les femmes et elle cite quelques pèlerine, d'ailleurs, au passage, petite parenthèse, vous savez que c'est de là que vient le nom, une pèlerine, c'est du manteau des pèlerins. Certaines n'hésitent pas à revêtir la cotte de maille, à coiffer le casque et à manier l'épée, comme les épouses des Normands de Sicile ou la margravine Ida d'Autriche qui prendra en 1101 les armes elle-même et partira pour la Palestine. Oui, on peut, pour délivrer le corps du Christ, là, les dames ont droit de monter à cheval et de se battre. L'autre exception pour les femmes, c'est donc le siège. Parce que vous soyez pauvre, riche, quel que soit votre état, homme ou femme, vous avez le droit de défendre votre ville, de défendre votre village. Le siège est une urgence devant lequel toutes les règles du fonctionnement social sont mises entre parenthèses. Il faut défendre son château. Alors, Colette Beaune toujours raconte le combat d'une certaine Pernelle de la Rivière qui a tenu un siège héroïque contre les Anglais en 1418 dans son château de la Roche-Guyon à la frontière de la Normandie. Son mari avait été tombé 3 ans plus tôt à Azincourt. Elle est devenue une des dames de compagnie de Marie d'Anjou, la mère de Louis XI. Et on pense que Jeanne d'Arc l'a rencontrée, cette femme. C'était une combattante. Hein. Il y a eu aussi la guerre des dames dans les années 1350 entre Jeanne de Flandre, qui était soutenue par les Anglais, et Jeanne de Penthièvre, héritière de Bretagne. Celle qui était côté anglais, on l'appelait Jeanne la Flamme. Elle a fait une sortie de son château d'Ennebon à cheval, et puis pendant la nuit, elle est allée mettre le feu aux tentes ennemies, donc aux tentes françaises, hein, et elle a pu libérer sa ville. Donc des combattantes comme ça, il y en a eu. Il y a surtout chez les Anglais. Alors ça m'énerve par contre. C'est vraiment dans l'Empire Plantagenet. En France, il y en a très peu, mais soyons bons joueurs. Oui, Isabelle de Conches, elle mène des armées féodales contre les seigneurs voisins, décrite comme aussi brave que plusieurs Amazones. Mathilde Lépresse, elle se bat contre son père, le roi d'Angleterre. Richard Visconti, Marie de Pouzol en Italie, grande cavalière. Et elle a des troupes et elle loue ses troupes à droite, à gauche, dans la région de Naples. Elle sait lire. Enfin, c'est une comète, c'est quand même une grande exception. C'est en France, hélas, ces femmes se comptent sur les doigts d'une main. Alors, on imagine. Vous parliez de Jeanne d'Arc tout à l'heure, Mathieu, mais en effet, imaginez l'impression produite sur les esprits du temps par une petite jeune fille qui se présente vêtue en homme et qui demande à combattre les Anglais. Alors, malgré toutes les réticences, on va commencer à s'habituer à voir des femmes sortir de leur rôle et éventuellement se battre. Mais ce qui va stupéfier littéralement l'opinion à l'époque avec Jeanne d'Arc, c'est l'ampleur, le niveau de responsabilité, la durée de son engagement, parce que son aventure dure 2 ans. Et pendant ces 2 ans, elle a commandé à des hommes, elle a commandé à des grands seigneurs. C'est un truc ahurissant. L'épopée de Jeanne d'Arc renverse l'ordre du monde. Et cette transgression est aussi ce qui va forger sa légende. Mais ceci est une autre histoire. Ah oui. Et voilà. Et
on n'en était pas monté. Le temps qui vous est imparti, malheureusement.
Là, pour parler de Jeanne d'Arc, il nous faudrait encore une
bonne heure. Oui, non, je ne songeais pas à m'aventurer sur ces terres. Mais donc, disons que si elle revenait, certainement, elle, au 19e, à l'époque d'Alfonsina Strada, elle aurait certainement fait du vélo.
Merci beaucoup Clémentine.
Vous le savez, vous parliez de cheval. Quand on chute à cheval, il faut tout de suite remonter en selle. Oui. C'est pareil pour le quiz.
Historiquement vôtre.
Je me souviens très bien de la deuxième question que je vous avais posée dans ce quiz. Je vous avais demandé quel couple célèbre a obtenu le Nobel pour ses travaux sur la radioactivité. Vous m'aviez répondu...
Adamo et Hugo Frey.
Ce jour-là, j'ai compris que la route serait longue, très longue. Jouons malgré tout pour la 285e fois à Born to be Alive.
C'est Tcherkova dans Vostok 6.
Stéphane. Première question pour vous. Partons pour commencer sous les drapeaux, et plus précisément sous le drapeau tricolore, mais celui d'Irlande. C'est en 1937 que les trois bandes verticales, verte, blanche et orange, deviennent officiellement celles de l'État libre d'Irlande. Le vert symbolise l'importance de la nature, une certaine conscience écologique, et les vertes prairies, fierté du pays. Ce qui est assez novateur pour la période. Vrai ou faux ?
Je crois pas du tout, non.
Vous croyez pas du tout ?
Non.
Ça symbolise quoi ?
Stéphane,
parce que le vert, c'est le trèfle d'Irlande.
Et ben, le trèfle, on le trouve où ?
Dans la nature, c'est le trèfle. Redites votre question, le vert symbolise...
Le vert, oui. Sur le drapeau irlandais, symbolise l'importance de la nature, une certaine conscience écologique et les vertes prairies, fierté du pays, ce qui est assez novateur pour la période.
Non.
Vous avez...
Vous avez raison, Stéphane. J'ai essayé de vous embrouiller, mais non. Faux. Le vert symbolise le mouvement catholique de libération nationale. Le orange représente les protestants et le blanc les rassemble en symbolisant la paix entre les deux communautés.
Le orange, c'est pas les désaccointances avec le duc de, avec le, la famille d'Orange, les princes d'Orange. Et quant au vert, vous savez que c'est avec le trèfle que le Saint Patrick a expliqué au peuple la Trinité. Il a montré un trèfle en disant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça. C'est comme ça que c'est devenu le symbole de l'Irlande.
C'était un petit plus intéressant qui pourra jouer en votre faveur au moment du jugement final. Question numéro 2 pour vous, Clémentine.
Vous alliez dire du jugement dernier.
aussi. Partons maintenant à pied pour la Chine. Fascinant empire du milieu. L'actuel président de la République populaire de Chine, l'immense Xi Jinping, qu'on embrasse, eh bien, au milieu des années 70, figurez-vous qu'il adhère au Parti communiste chinois, mais avant d'y arriver, il a essuyé 9 refus. Vrai ou faux ? L'actuel dirigeant de la Chine,
alors,
Xi Jinping.
Alors, est-ce qu'il est vraiment difficile de faire partie du parti ? A priori, tout le monde devrait pouvoir, dans un enthousiasme collectif, adhérer au parti.
Mais on n'a même pas le choix, à mon avis, non ?
Quand on est, on devient membre du parti, non ? C'est pour ça que ça me paraît curieux que 9 fois il ait échoué. Non. C'est le parti communiste est universaliste et tout le monde doit pouvoir en faire partie.
Selon vous, donc, chaque Chinois serait adhérent du Parti communiste chinois. Il ne pourrait pas en aller autrement.
Est-ce que chaque Chinois a sa carte du parti ? Spontanément, je dirais oui.
Donc vous répondez que c'est faux ?
Je réponds que c'est faux.
Vous avez perdu.
Vous avez perdu. Tout le monde, chaque Chinois n'est pas membre du Parti communiste. Son père, le père de Xi Jinping, l'actuel dirigeant chinois, avait été victime d'une purge de Mao quand il avait 9 ans, quand Xi avait 9 ans. La suspicion a donc longtemps habité la famille de Xi Jinping. Fort heureusement, le papa de Xi a été réhabilité lors de la prise de pouvoir de Deng Xiaoping. J'aime les histoires qui finissent
bien.
C'est ça,
c'est qu'en fait, il n'en fait pas partie parce que son père était un dissident anticommuniste. Oui, alors, bon, d'accord. Mais ça n'a pas répondu à la question de savoir si quand vous naissez en Chine, vous êtes d'autorité.
Parce qu'on a déjà vu, mais je le crois même dans cette émission, on a vu que c'était pour faire une carrière politique en Chine, vous êtes obligé d'adhérer au Parti communiste. Mais je crois qu'un citoyen chinois lambda qui n'a pas d'aspiration politique particulière...
Ça, c'est peut-être vrai maintenant, mais ça ne devait pas l'être autrefois. Ça me paraît curieux, votre histoire.
Je n'ai pas la réponse. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Aujourd'hui, on a l'euro, mais on a bien failli avoir l'écu. Créé en 1979 avant l'euro, c'était un panier de valeurs utilisé par les institutions européennes et les banques centrales, puis l'euro est arrivé. L'euro a failli s'appeler l'écu, mais Valéry Giscard d'Estaing a demandé d'abandonner cette idée, car dans écu, pour les Français, il y avait une connotation grossière. Vrai ou faux ?
Vous m'interrogez sur la raison pour laquelle on n'a pas repris l'écu.
Oui, et je vous demande si cette raison, si on le doit à Valéry Giscard d'Estaing, qui se serait opposé à l'écu.
Il y a une sombre histoire de... Il fallait que ça puisse se dire dans toutes les langues. Et en fait, le plus grand dénominateur commun. Et on s'est rendu compte que c'était l'euro, pas l'écu, parce que l'écu ne...
Qui est bon. Maintenant, la réponse sera-t-elle celle que j'attends ? Le raisonnement est bon.
Il y a eu quelque chose autour de ça, en tout cas. Moi, j'ai un souvenir à peu près.
Donc je dirais non, parce que ça n'a rien à voir avec Giscard d'Estaing.
Vous avez...
Admirable raisonnement, c'est faux, c'est même l'inverse. Giscard militait pour l'écu. Il voulait l'écu, Giscard. On a découvert ensuite pourquoi. En fait, on a officiellement abandonné cette appellation, car pour les Allemands, ein Kuh, ça veut dire une vache.
Ah oui, bien
sûr. Et donc,
sûr.
Ça n'allait pas. C'est conforme à ce que vous disiez, il fallait que ça aille dans toutes les langues.
Ça s'est passé au Québec, ça. Les Anglais voulaient imposer un code postal qui ne disait rien en anglais. J1Q1Q9. Mais lié en français, ça donnait G1Q7Q9. Et donc les Québécois ont
protesté. Ils l'ont fait exprès, c'est pas possible, c'est trop
beau. Ah, les savoirs, ils sont capables de tout.
Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Quand dans les films, on voit des policiers s'entraîner à tirer sur des cibles représentant un gangster avec un chapeau, vous connaissez cette image, c'est quelqu'un qui a vraiment existé, ce gangster avec un chapeau, vrai ou faux?
Oh, c'est peut-être pas, ils ont peut-être pensé au gang des tractions avant, à Pierrot le Fou, à Borsalino, à l'époque des truands enchapotés et en particulier, oui, pourquoi pas, oui.
Vous dites vrai.
Vous avez gagné.
Deux bonnes réponses de Stéphane, une seule bonne réponse pour Clémentine, c'est une victoire de Stéphane Bern. Stéphane Bern qui est pour l'instant, parce que les gens s'intéressent à ça, les auditeurs veulent savoir, ils veulent le classement. Ils me disent, où peut-on trouver le classement en temps réel? Eh bien, écoutez, je vous le donne aujourd'hui, c'est Stéphane qui mène pour l'instant Bern to be alive. D'une victoire seulement, ah, c'est très court.
Ah oui, ça peut se jouer sur la 286e.
J'ai oublié de vous donner la réponse.
Ah bah oui.
Mais oui, les auditeurs aussi s'intéressent à ça. Et oui, ce personnage, ce gangster avec un chapeau qu'on voit sur les cibles sur lesquelles s'entraînent à tirer les policiers aux États-Unis, c'est John Dillinger.
Vous n'avez pas dit aux États-Unis.
Mais alors?
Ah bah ça change tout, parce que j'aurais peut-être dit John Dillinger.
On en a parlé dans cette émission de John Dillinger.
Mais vous avez marqué le point, de toute façon, vous voulez quoi, un point bonus?
Elle est bien marquée pour de bonnes raisons.
Oui, bon alors écoutez, John Dillinger, un malfrat des années 30, il a d'ailleurs été tué par le FBI au pistolet alors qu'il sortait du cinéma.
Le cinéma où il était allé avec sa petite copine, où j'ai raconté ça.
Et il venait voir, quel film il venait de voir? Il venait de voir le film L'ennemi public numéro 1. Ça s'invente pas quand même.
Ah magnifique.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, spécial Petite Reine. La course est magnifique, je suis légèrement devant, je viens de passer le col de la première heure, mais derrière moi, Stéphane Bern est en embuscade, il pédale en danseuse, il donne tout.
Une, deux.
Et comme il est gavé de PO, je crains qu'il ne me rattrape.
Je fonce sur vous, Mathieu. Bon, mais pas aussi vite que nos trois personnages du jour. Elles étaient véritablement des reines de la petite reine. Après Annie Londonderry qui a fait le tour du monde en 15 mois, et en racontant parfois tout et n'importe quoi, je vous raconte le destin d'Alphonsina Strada, celle par qui le scandale arriva. Oui, elle a osé. Alors, oser quoi? Faire du vélo. Et concourir aux côtés des hommes, aussi dans une course mythique, dont elle fut la seule et unique participante féminine. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait de celle qui est tout simplement la plus grande cycliste française de tous les temps.
Oui, Stéphane, c'est fou de se dire qu'à 63 ans, Jenny Longo roule toujours avec son vélo, deux fois plus vite que vous avec votre Mini Cooper S.
Ah oui,
c'est
vrai.
À quoi ressemble la pré-retraite de celle qui a encore été sacrée championne du monde le mois dernier? Rendez-vous vers 5h20.
Sans oublier nos chroniqueurs, qui sont toujours un peu essoufflés en côte, hein, surtout l'un d'entre eux.
Celui qui aime trop les rillettes.
Oui. Alors d'abord, David Castillo-Lopez qui nous raconte les origines d'une chose qui nous concerne aujourd'hui, et qui est vraiment dans notre quotidien.
C'est la semaine de 7 jours. Pourquoi elle fait 7 jours? Et je vous rajouterai deux autres origines. Pourquoi les jours ont ce nom-là et pourquoi ils sont dans cet ordre-là?
Vous pourriez nous dire pourquoi les jours font 24 heures aussi?
Alors ça, non, parce que la chronique ne fait que 4 minutes. Après, je me fais engueuler par les réalisateurs.
Moi, j'ai envie de savoir.
Mais je le ferai si vous voulez. C'est beaucoup plus facile.
Les jours portent le nom des dieux. Des dieux grecs.
Je vais faire ma chronique.
Je sens, Stéphane, que vous avez envie de faire la chronique de
David. Il y a un rapport avec les planètes aussi. Lundi, la Lune. Mardi, Mars. Jeudi, Mercure.
Merci. Vous êtes libéré, David. David, vous savez faire une tarte au citron? Allez, s'il vous plaît.
Vous mettez de la meringue. Il y a un petit peu de citron et de
voilà, Olivier Poulpe, vous pouvez rentrer chez vous aussi.
Je vous donnerai en échange la recette de la tarte au citron meringuée.
Et surtout, vous nous direz qui a inventé ce magnifique dessert que j'adore.
C'est vrai, vous savez, on dit une tarte italienne.
Eh bien, c'est pas italien du tout.
Ah ben voilà,
vous le saurez.
Je n'en dis pas plus.
Tout à l'heure, enfin, c'est une séquence aussi clivante et aussi acide que la tarte au citron. En toute fin d'émission, David, Olivier et moi nous affronterons dans le cadre de la lutte finale. Et afin que je puisse rentrer chez moi sans me faire lyncher par mon fils de 9 ans, il serait bon qu'aujourd'hui, enfin, pour la première fois depuis 2 mois, je l'emporte. Mais tout de suite, partons à la rencontre de notre deuxième personnage du jour.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
On l'a surnommé le diable en jupon.
Anne Hidalgo.
Non, Stéphane, non. Mais c'est vrai qu'elle aussi, elle aime faire du vélo. Tellement qu'elle a bravé les interdits pour assouvir ce plaisir et prendre le départ d'une course réservée aux hommes. Stéphane Bern nous raconte la grande reine de la petite reine, Alphonsina Strada.
Nous sommes le 10 mai 1924 à Milan. Il est 4h41 du matin, le jour n'est pas encore levé, mais elle si. Aujourd'hui, Alphonsina Strada prend le départ du Giro, une compétition cycliste qui fait le tour de l'Italie.
Vêtue d'un haut près du corps et d'un short, ce qui n'est pas anodin pour l'époque, elle porte le dossard 72. À 33 ans, Alfonsine Astrada est la seule femme contre des dizaines de compétiteurs masculins. Pourtant, dès la première étape et après avoir pédalé pendant 13 heures, elle a déjà doublé un certain nombre de ses concurrents. La route est encore longue, ardue. Jusqu'à la ligne d'arrivée, Alfonsine Astrada doit peiner sur des routes de montagne parmi les plus escarpées d'Europe. Autour d'elle, on murmure, souvent même on se moque, mais jamais elle y arrivera. Mais coureurs, publics et journaux vont vite constater que rien n'arrête Alfonsine Astrada. Avec sa volonté de faire, la cycliste va vite déjouer tous les pronostics. Rien ne prédestine, et pourtant la petite Alfonsine Amorini, c'est son nom de jeune fille, à devenir une cycliste mondialement connue. Elle est née le 16 mars 1891 dans le nord de l'Italie. Son père est ouvrier agricole et elle est la deuxième d'une fratrie de 10 enfants. Alfonsine a 10 ans quand son père échange quelques poulets contre le vieux vélo du médecin de village. Pour la fillette, c'est une révélation. Le dimanche, elle se lève à l'aube pour sillonner les routes des environs où elle rencontre d'autres cyclistes. Quand elle déclare vouloir participer à sa première course, ses parents s'affolent. Si la bicyclette est tolérée pour les filles, vêtues pudiquement de longues jupes et de préférence sous la surveillance de leur mère ou d'une tante, la pratiquer en compétition est choquant, voire même carrément indécent. Certains médecins se demandent même si le fait de se tenir en selle ne procurerait pas certains plaisirs coupables aux femmes. Alors, Alfonsina se retrouve à concourir en secret. On raconte que pendant qu'elle pédale comme une forcenée, ses parents la croient à l'église. La jeune fille est douée, très douée même. Un jour, elle rapporte un cochon en guise de prix à la maison. C'est une aubaine pour la famille nombreuse. Si ses parents sont troublés, ils commencent aussi à entrevoir le potentiel de leur fille. De plus en plus de courses pour amateurs et professionnels sont organisées à la fin de ce 19e siècle. La première course cycliste féminine connue a eu lieu au Vélodrome de Bordeaux le 1er novembre 1868. De quoi donner des idées à Alfonsina qui s'inscrit à des compétitions féminines à Turin et à Milan. La jeune femme enchaîne les victoires sous le regard de centaines d'hommes venus applaudir, se moquer ou parfois même insulter des sportives. Dans une société qui considère la femme uniquement comme mère au foyer, Alfonsine Amorini décide de vivre autrement. Sur son vélo, elle découvre la liberté et ses performances forcent le respect. Bientôt, les journaux parlent d'elle comme la meilleure cycliste italienne et à 20 ans, elle devient la cycliste la plus rapide du monde. En parcourant plus de 37 km en une heure, elle bat le record établi 6 ans plus tôt par la Française Louise Roger. Dans son village natal, on surnomme Alfonsine Amorini le diable en jupon. Plutôt musclée, elle est pourtant souvent habillée d'un pantalon d'homme, ses cheveux noirs sont coupés courts et elle ne se maquille pas. Ses parents craignent d'ailleurs qu'elle ne trouve jamais de mari. Mais les craintes sont vite dissipées puisque, à 24 ans, Alfonsina épouse Luigi Strada, un artisan ciseleur de métaux et un sacré coureur. Amateur et en vélo, vous l'avez compris. En grand supporter de son épouse, il lui offre une bicyclette flambant neuve pour qu'elle puisse exprimer tout son talent, ce dont elle ne va pas se priver. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, les hommes sont appelés au front. De nombreuses femmes occupent des emplois vacants dans les usines, les bureaux ou les champs. Pour Alfonsina, désormais Alfonsina Strada, c'est l'occasion de s'inscrire aux grandes épreuves masculines qui manquent de participants. En 1917, elle participe alors au Tour de Lombardie, l'une des courses les plus importantes du calendrier italien. Alfonsina Strada fait partie des 54 participants à prendre le départ, mais aussi des 32 seulement qui terminent la course. De quoi faire de plus en plus parler d'elle. Les organisateurs de courses ont compris qu'en la faisant participer, ils s'assurent un maximum de publicité. Et c'est ainsi qu'on l'autorise donc à courir le Giro d'Italie, l'une des courses cyclistes les plus difficiles au monde. Aucune femme avant Alfonsine Astrada ne s'y est risquée. Et elle restera d'ailleurs la seule et unique. Dès le départ, Strada s'impose comme une candidate de taille et son courage force l'admiration du public. Lors d'une étape à Rome, elle reçoit des télégrammes d'encouragement venus de tous les coins de l'Italie. Le roi Victor Emmanuel III lui-même fait montre de son admiration en lui faisant porter un énorme bouquet de fleurs et une enveloppe contenant 5000 lire, autant dire une fortune. Mais les longues étapes s'enchaînent. En montagne, les conditions climatiques sont effrayantes. Des pluies diluviennes et des vents violents transforment la course en un véritable cauchemar. Alfonsina Strada, couverte de boue et de sueur, s'épuise et chute plusieurs fois. Alors qu'elle traverse la région des Abruzzes, elle se blesse et casse son guidon. Pour continuer, elle trouve une solution, le remplace par un manche à balai. Arrivée hors délai, Alfonsina devrait être disqualifiée, mais les organisateurs font une exception. On l'autorise à finir la course à condition qu'elle n'apparaisse plus dans le classement. Alfonsina a prouvé qu'elle peut rivaliser avec des hommes, mais l'année suivante, les organisateurs du Giro d'Italie ne veulent déjà plus d'elle. Alfonsina se produit alors dans des spectacles où elle pédale à toute vitesse sur des rouleaux, tandis que l'aiguille d'un gigantesque compteur kilométrique monte et monte encore, comme preuve de son incroyable performance sportive. Son numéro le plus spectaculaire est celui de la course de la mort. Dans un grand cylindre en bois, suspendu en hauteur, Alfonsina pédale à toute allure, uniquement maintenue en l'air par la force centrifuge. Ses gains lui servent en partie à financer les frais d'hôpital de son époux malade. Quelques années après son décès, la sportive épouse Carlo Messori, lui aussi ancien cycliste professionnel. Ensemble, ils ouvrent un magasin de vélos ainsi qu'un atelier de réparation. Avec le temps, Alfonsina Strada délaisse sa petite reine au profit d'une moto Guzzi. Au guidon de son engin rugissant, elle se déplace sur des compétitions, mais en spectatrice cette fois. En 1959, à 68 ans, elle succombe à une crise cardiaque, juchée sur sa moto. Alfonsina Strada est morte comme elle a vécu, en selle, prête à filer plus vite que le vent.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler d'Alfonsina Strada, nous sommes avec une autre reine de la petite reine. Bonjour Marion Rousse.
Bonjour messieurs, bonjour à tous.
Bonjour Marion Rousse, vous avez été coureuse cycliste professionnelle, championne de France sur route en 2012. Vous commentez le Tour de France à la télévision et vous êtes désormais à la tête du Tour de France féminin. Que représente pour vous la figure d'Alfonsina Strada? C'est quelqu'un qui compte?
Bien déjà, merci beaucoup, parce que je ne la connaissais pas cette histoire. Et elle est juste incroyable, bien sûr qu'elle compte, cette femme, Alfonsina. Elle est incroyable, elle est courageuse, pleine de volonté et surtout pleine de talent. Quel chemin de vie. Donc merci messieurs pour cette belle histoire.
Mais dans votre panthéon des coureuses cyclistes de légende qui vous ont peut-être donné envie, vous-même, de devenir une coureuse aguerrie, qui figure aux côtés d'Alfonsina Strada? Quels sont les grands modèles, j'allais dire?
Maria Canins, l'italienne, et évidemment Jenny Longo. Multiple fois championne du monde, presque 60 fois championne de France, championne olympique. Je pense que Jenny Longo vraiment fait partie des femmes qui m'ont donné envie de faire du vélo.
On va parler de Jenny Longo tout à l'heure dans mon portrait, mais on ne pourra pas faire mieux que le palmarès de Jenny Longo. Ça va être compliqué quand même pour quelqu'un qui démarrait le vélo aujourd'hui. Comment on peut faire un palmarès pareil? C'est un peu intimidant, c'est inspirant mais intimidant, non?
C'est impossible, parce que déjà le cyclisme féminin n'a plus rien à voir avec l'époque. Donc il y a beaucoup plus de densité, beaucoup plus de niveau, et heureusement c'est ce qui fait maintenant que les courses sont magnifiques.
Alors Stéphane le racontait, Alfonsina Strada a troqué quelques poulets pour obtenir son premier vélo. Est-ce que vous vous rappelez du vôtre, le premier vélo, et de la sensation que ce sport vous a procuré la première fois?
Alors oui, j'ai pas eu besoin de troquer des poulets.
Vous avez eu plus de chance.
Alors, on roulait pas sur l'or non plus, donc mes parents n'ont jamais pu mettre 5 000 ou encore moins 10 000 euros dans un vélo, parce que les prix, on sait, ils sont conséquents. Mais je me souviens que j'ai commencé le vélo, j'avais 6 ans, donc j'étais toute jeune, et c'était mon club de l'époque qui m'avait donné mon vélo. Donc je me souviens de la marque, il était noir et blanc, j'avais les cale-pieds encore, les vitesses sur le guidon, donc c'était une autre époque encore maintenant, et pourtant je suis pas bien vieille.
Dites-moi, vous dites à l'époque il y avait les vitesses sur le guidon, ça m'inquiète parce que moi j'ai toujours les vitesses sur le guidon.
Oui, moi aussi.
Il y a un petit problème alors Stéphane.
Moi j'ai toujours les vitesses sur le guidon, elles sont où les vitesses?
Elles sont où maintenant les vitesses?
Ah maintenant elles sont sur les cocottes, sur le guidon. Elles sont même électriques. Mais avant c'était sur le cadre.
Ah, le cadre. Voilà.
Le cadre. Des fois on passait deux vitesses d'un coup au lieu d'une.
Alors, je l'ai raconté dans le récit sur le Giro d'Italie, par exemple, avec Alfonsina Strada. Elle devait affronter des conditions climatiques très, très difficiles. Comment on se prépare à affronter ça mentalement? Parce que c'est vrai que c'est bien gentil de partir comme ça à l'aventure faire du vélo, mais y a les épreuves de montagne, il y a la pluie, il y a la boue. Comment on fait?
Bon, on s'y prépare pas forcément, parce que bien souvent quand on fait du vélo, on commence très jeune et en fait c'est un spectacle à ciel ouvert. Donc s'il y a bien une chose qu'on contrôle pas, c'est la météo. Et depuis notre plus jeune âge, en fait, on a l'habitude de courir sous la pluie, parfois même sous la neige et des conditions extrêmes dans l'autre sens où parfois il fait 40 degrés. Donc depuis quelques années, il y a même un protocole UCI qui a été mis en place où maintenant quand même on s'autorise le droit, quand c'est vraiment extrême, d'arrêter la course ou de diminuer les kilométrages. Mais il y a encore quelques années, il fallait courir.
Est-ce que personnellement vous avez déjà eu envie d'abandonner?
J'ai déjà abandonné. Dans une carrière de cycliste, déjà il y a les conditions météo, mais il y a aussi les chutes. C'est un sport qui reste dangereux. Donc moi je me suis déjà vue, j'étais en Chine une chute massive où il y avait 60 filles à terre et je me suis retrouvée dans des hôpitaux en Chine où ils parlaient pas anglais et encore moins français. Voilà, j'ai eu quelques fois peur, mais maintenant c'est des bonnes histoires.
Et dites-moi, on le voit pour Alfonsina Strada, pour une femme, c'était difficile de s'imposer. Est-ce que pour vous, ça a été difficile de vous imposer comme femme cycliste professionnelle?
Dur, oui, oui et non. C'est sûr que j'ai toujours eu l'impression de devoir montrer plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on m'a jamais fait de cadeau. Donc, quand j'étais jeune, tous mes amis étaient des hommes, puisque finalement, il n'y avait pas d'autres filles qui couraient avec moi et je partais pas avec un avantage. Donc, si je voulais gagner, il fallait que je les batte. Et du coup, depuis que je suis jeune, j'ai toujours ce tempérament et ce même esprit. Et c'est pour ça que maintenant, même dans mon métier de consultante, dans mon métier de directrice maintenant de course, j'ai toujours cette même mentalité de me dire bah, « je suis là parce que je suis à ma place et pas parce que je suis une femme ».
Il y a peut-être, Marion Rousse, un autre problème dans le cyclisme féminin encore aujourd'hui, c'est les écarts de salaire.
Alors j'espère déjà ne plus avoir à vous expliquer cette chose-là dans un futur très proche, parce que c'est vrai qu'il y a un écart de salaire énorme. Alors depuis l'année dernière, il y en a un salaire minimum.
D'accord.
Et depuis que j'ai arrêté ma carrière, ça fait maintenant plus de 7 ans, le cyclisme féminin, il a évolué, et ce, dans le bon sens. Donc, il y a toujours des écarts de niveau, des écarts de primes en course, évidemment. Mais nous, on espère, voilà, avec ce Tour de France femmes, justement, eh bien, qu'on arrive à faire venir les médias, à faire venir les sponsors, qu'il y ait de plus en plus d'argent et qu'il y ait un système économique viable.
On le disait, vous avez été nommée à la tête du Tour de France femmes, qui sera relancé en juillet 2022, après 12 ans d'absence. Quels sont vos principaux objectifs avec cette course? Et j'imagine qu'il s'agit de montrer aux jeunes femmes qu'elles peuvent, comme les hommes, rêver d'une carrière de cycliste professionnelle.
Oui, c'est vrai, c'est un des premiers points, parce que moi, quand j'étais jeune, je ne pouvais pas m'imaginer un jour faire le Tour de France, et pourtant, j'étais devant la télé, comme tous les autres enfants. Et j'étais une petite fille, donc il m'était impossible de pouvoir rêver un jour y participer. Et surtout, notre gros objectif, c'est que dans 100 ans, elle soit toujours là, cette course. On a envie vraiment que cette course devienne la course par étapes de référence, et que les gens, en fait, quand ils ouvrent la télé, ils voient du cyclisme féminin et que ce soit normal, que ce soit plus une surprise et qu'ils connaissent ces femmes, que les sponsors arrivent, qu'il y ait de l'argent et que le cyclisme soit vraiment vu à sa juste valeur.
Bon, Marion, juste une toute petite dernière question, moi qui fais un tout petit peu de vélo. C'était en moyenne, quand vous faites une sortie de vélo pour vous entraîner, vous êtes à combien de moyenne, juste en entraînement?
Alors, je vais peut-être reprendre il y a quelques mois, parce que là, j'y ai accouché d'un petit garçon il y a 5 mois. Donc maintenant ça va plus très vite, honnêtement. avant, ça dépendait du nombre de kilométrages, mais ça tourne autour de 33 km/h.
33 km/h, Stéphane, on essaiera sur les routes du Perche, vous verrez.
Ah non,
à mon avis, on n'y sera pas tout à fait.
On n'y sera pas tout à fait, oui.
Ah non.
Bah merci beaucoup, Marion Rousse.
Et
rendez-vous sur les routes de France du 24 au 31 juillet prochain pour le Tour de France Femmes 2022. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on évoque les reines de la petite reine. Après Annie Londonderry et Alfonsina Strada, Mathieu, vous nous parlez à présent de la reine des reines, une des sportives françaises les plus épatantes de tous les temps.
Oui, alors Dieu sait que je suis difficilement impressionnable. Certainement le fait de côtoyer au quotidien des pontes tels que le colonel Bern, chevalier du Grand Tzatziki, David, l'homme aux centaines de milliers de vues sur YouTube, sans oublier notre nouvelle star élue dernièrement plume d'or de la gastronomie française, mais qui a malgré tout su rester simple.
Je détiens la force toute puissante.
Olivier, David et Stéphane, vous avez beau m'impressionner énormément, je dois avouer que Jeannie Longo, elle m'impressionne encore plus. Déjà parce que devenir une star en s'appelant Jeannie, c'est un tour de France. Un tour de France. Lapsus, un tour de force et un tour de France. Et surtout parce qu'elle a le plus beau palmarès sportif français, tout sport confondu. Jeannie, c'est quelqu'un qui met à mal l'expression pour son âge. Jeannie Longo n'est pas exceptionnelle pour son âge, elle est exceptionnelle tout court. Le 10 octobre dernier, vous faisiez quoi, vous, Stéphane? Vous vous souvenez?
Non.
Moi, je vais vous le dire, vous vous y êtes certainement massé par Pepinho, votre kinésithérapeute brésilien transgenre, qui devait encore râler.
Tu travailles à la chaîne.
Eh bien, Jeannie Longo, elle, à 63 ans, elle se gelait les miches à Sarajevo sous un crachin dégueulasse pour devenir championne du monde du contre-la-montre dans la catégorie des plus de 60 ans. En septembre dernier, elle était déjà devenue championne PACA du contre-la-montre en humiliant de 1 minute 30 sa dauphine qui était pourtant de 40 ans sa cadette. Car oui, j'ai oublié de le préciser, c'est pas la première fois que Jeannie est championne du monde, elle l'a été 21 fois. Comble du chic, la reine reste modeste en déclarant, tenez-vous bien, « Oh, à mon âge, c'est juste de l'entretien, du bachotage, rien de plus !» Alors non, Jeannie, avec un peu d'entretien, à titre personnel, je peux éventuellement envisager d'aller en vélo chez le primeur, aller-retour, si j'ai pas le vent de face. Pas devenir championne du monde de cyclisme. Depuis le début de sa carrière, elle collectionne comme ça les titres, avec insolence. Il faut dire que l'ADN sportif coule dans ses veines, puisque Maman Longo pratique le lancer de disque. risque. Sachez qu'avant de monter sur un vélo, Janie était déjà championne de ski. Vous, Stéphane, vous êtes si peu sporté sur le sport que même quand vous faites semblant de faire une activité sportive dans le cadre d'un récit historique, on sent que c'est faux.
Il ne doit plus être loin, bon sens, ce Mississippi.
Janie, elle, est une sportive née, skieuse à la base donc. Un jour de 76, entre deux tire-fesses, elle croise le regard de celui qui va bouleverser sa vie. Patoche. Patrice Ciprelli est entraîneur de l'équipe de France de ski. C'est lui qui va pousser Janie à tâter du guidon. Il devient son coach, son mentor, son René. Il est dur, tyrannique, diront même certains, mais elle aime ça. Je peux vous dire que la Janie, il fallait pas qu'elle rentre à la maison avant d'avoir fait ses 100 bornes. Sinon, Patrice l'attendait de pied ferme.
Tu veux que j'aille chercher le martinet?
Une fois son choix arrêté sur la bicyclette, on n'arrêtera plus Janie. 13 fois championne du monde, 59 fois championne de France, championne olympique en 96. C'est simple, elle a tout gagné, avec en prime 38 records du monde. Comment une telle longévité est-elle même possible? Eh bien, la volonté, bien sûr. Un professionnalisme de chaque instant, ne jamais rien laisser au hasard, comme Stéphane, qui après 30 ans de carrière, fait encore des vocalises avant chaque carillon.
Il est 16h sur Europe 1.
Eh bien, le vélo, c'est pareil. Toujours se remettre en question. Voilà une des clés du succès de Janie Longo. Mais en 87, c'est le drame. Janie est contrôlée positive à l'éphédrine, quelques jours après avoir battu le record des 3 km à Colorado Springs, et 10 jours seulement avant de battre le record de l'heure. 3 fois rien, l'éphédrine, c'est ce que sniffe Stéphane avant chaque prime sur France 2, pour se donner un petit coup de fouet, pas de quoi en faire un fromage. Mais voilà, les autorités du cyclisme ne l'entendent pas de cette oreille, et notre Janie est suspendue pour un mois. Ébranlée, elle décide en 89 de mettre sa carrière en pause, puis, prise de fourmi dans le fessier, elle remet le couvert en 92 au JO de Barcelone. Seulement, c'est là qu'éclate le célèbre scandale de la pédale. The Pedal Gate. Janie est exclue de l'équipe de France pour avoir refusé d'utiliser les pédales de la marque partenaire de la Fédération Française de Cyclisme. J'ai toujours choisi mes pédales moi-même, j'ai des goûts très particuliers en matière de pédales, expliquera Janie, visiblement excédée. En 2011, c'est le comeback, Janie devient championne de France du contre-la-montre à 53 ans. Elle est élue sportive préférée des Français. Avec le temps, elle se raconte un peu plus. En interview, on apprend qu'elle mange et vit 100% bio, qu'elle entretient aussi sa cervelle puisqu'elle est titulaire d'un DESS en droit et économie du sport et qu'elle pratique le piano à haut niveau et qu'elle s'engage aussi sur les sujets environnementaux qui lui tiennent à cœur avec la mairie de Grenoble. Hélas, Janie n'en a pas fini avec les scandales. En 2011, elle est accusée d'avoir enfreint les règles de localisation de la lutte antidopage qui contraint les coureurs à communiquer leur position entre 6h et 23h afin de pouvoir éventuellement honorer un contrôle. Elle sera finalement relaxée, mais la schkoumoune ne s'arrête pas là puisque Patoche est ensuite suspectée d'avoir acheté de l'Eposino sur le dark web en 2007. L'Eposino, une sorte de PO chinois. Mais à qui le PO chinois était destiné, Stéphane? Patoche aurait-il fait un stock pour sa Janie? En attendant d'en savoir plus, la Fédé de cyclisme a suspendu provisoirement Patrice. Dans l'escalade de la Louse, on note que la championne est ensuite interdite de participation au championnat de France sur piste car son guidon n'a pas été jugé conforme au règlement à 2 mm près. Comme quoi 2 mm parfois ça compte. C'est quand même dingue cette poisse. Qui en veut à Janie? Elle a sa petite idée. Tout le monde. Je suis indésirable. On veut se faire Longo. On me reproche d'être là. J'éprouve de la frustration, du dépit, de la déception. Dans d'autres sports, des athlètes comme moi, on leur dit au revoir avec la larme à l'œil à la cérémonie. Ce n'est pas ce que je demande, mais j'aimerais juste un peu de reconnaissance. Oui, Janie la mauvaise. Et franchement, on la comprend. En mars 2015, c'est la cerise sur le guidon. Lors du tournage de l'émission télé Dropped, qui devait être diffusée sur TF1, rassemblant des figures du sport, un accident d'hélicoptère dans la Pampa, vous le savez, entraîne la mort de trois de ses amis, Camille Muffa, Alexis Vastine et la navigatrice Florence Artaud. Le choc de trop pour Janie, qui décide alors de prendre du recul en Savoie. Elle trouve refuge dans la nature, loin de la folie des hommes, mais toujours avec Patrice, le dealer de PO chinois. Depuis, je vous l'ai raconté, elle est remontée une énième fois en selle. Elle a encore gagné à 63 ans. Et c'est donc très émouvant de retomber sur cette archive des championnats de France 1980. Janie avait 22 ans. Elle venait de vivre sa première chute. Elle était un peu dégoûtée et aux journalistes qui essayaient de lui remonter le moral, elle répondait ceci.
À 22 ans, vous avez encore toute une carrière devant vous.
Oh, mais je vais pas finir ma carrière. Je vais pas être vieillard sur un vélo.
Je vais pas finir vieillarde sur un vélo, comme quoi je me répète, mais on en dit des conneries quand on est jeune. Voilà, j'espère que ce portrait vous aura ému. Stéphane, vous qui en connaissez un rayon sur le cyclisme, un dernier conseil pour réussir dans le vélo?
Oui, il y a des mollo sur l'arrêt.
Effectivement, tous les proctologues du sport vous le diront, la peau de chamois, très important, Stéphane.
Merci Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour, ces reines de la petite reine.
Pour retrouver nos rois à nous, à commencer par celui qui est du point de vue nutritionnel, l'antithèse de Janie Longo, il se nourrit de tarte au citron.
Et puis je vous raconte pas ce qu'il y a dans mon bidon quand je fais du vélo. Pas besoin de PO, moi,
ah,
monsieur.
Non, c'est sûr, mais vous faites rarement du vélo, heureusement. Mais d'abord, Stéphane, retrouvons David Castello-Lopez qui remonte aux origines de la création, puisqu'on parle des origines de la semaine de 7 jours.
Oui, je vais commencer par vous poser quelques questions. À votre avis, pourquoi un an, ça fait 365 jours?
Alors, c'était pour le truc, le soleil, la lune autour du soleil.
Pour le truc de la lune.
On s'est mesuré une journée.
Non, mais excusez-moi, je vous ai posé une question simple. Pourquoi un an, ça fait 365 jours
pour tourner autour du soleil.
Voilà. Pour moi, je me suis fait une question très simple.
Oui, je sais plus, moi, vous savez.
Parce que c'est à peu près le temps que
Copernic.
Pour moi, ça allait super vite. Je suis désolé encore pour le réalisateur parce que ça a un peu plus longtemps que prévu, du coup. Deuxième question. À votre avis, pourquoi une journée fait 24 heures.
Ben c'est voilà, même chose pour ça.
Le soleil,
sinon le soleil,
c'est la rotation de la Terre,
par rapport au soleil
sur elle-même. OK, elle-même. Merci. Troisième question, à votre avis, pourquoi les mois font à peu près 30 jours?
Je sais pas. Pour les saisons.
Pour les saisons.
Il résonne à l'envers.
Parce je sais c'est... qu'il y a 30 en juillet, 30 en août, parce que Apollon voulait avoir autant de
31,
ouais. 31, oui.
Alors, non, c'est parce que c'est à peu près le temps que dure un cycle de la Lune, voilà. Encore une fois, je m'attendais à ce que ce soit des réponses qui
viennent.
Mais
c'est
de la Lune, ah oui, la pleine Lune.
Nous, on connaît l'histoire, on connaît pas le.
Et enfin, une question qui était, la question compliquée, mais qui du coup, elles étaient toutes compliquées, les questions. Pourquoi? Pourquoi les semaines font 7 jours? À quel cycle naturel est-ce que ça correspond?
Il est écrit dans la Bible que Dieu a créé le monde en 6 jours et que le 7e jour, il s'est reposé.
D'accord.
Voilà,
d'accord.
Donc c'est
il n'y a pas à aller chercher plus loin.
D'accord. Mais excusez-moi, il va falloir qu'on aille chercher plus loin. Voilà, je pense qu'en train, mais on va essayer de voir la science et ensuite, je suis sûr qu'on arrivera à faire rentrer cette science à l'intérieur de Dieu.
Ça, c'est intéressant.
Voilà.
Faisons rentrer la science dans
à l'intérieur de Dieu. Donc, ça ne le truc marrant, c'est que j'ai dit 3 trucs qui correspondent à des cycles naturels et la semaine ne correspond à aucun cycle naturel.
Parce que c'est Dieu.
Rien du tout. Il n'y a aucune raison que les semaines fassent 7 jours. C'est entièrement arbitraire et du coup, ça donne super envie de savoir pourquoi les semaines font 7 jours et surtout depuis quand. Eh bien, si les semaines font 7 jours, c'est très probablement parce que les Babyloniens en ont décidé ainsi il y a des milliers d'années, peut-être plus de 4000 ans. Alors, j'ai bien conscience que ça ne fait que reporter la question qui devient du coup... Pourquoi les Babyloniens ont décidé de faire une semaine de 7 jours? Alors, je vous avoue qu'il n'y a pas de certitude de ce côté-là non plus, mais il y a des hypothèses intéressantes. Imaginez que vous êtes un Babylonien, il y a des milliers d'années, et que vous...
Je marche dans Babylone.
Voilà, exactement. Je peux finir ma phrase, c'est quand même dingue. Vous êtes chaud aujourd'hui.
Mais non, on s'intéresse.
Tu veux un avocat?
Imaginez que vous êtes un Babylonien, il y a des milliers d'années, et que vous regardez le ciel par une nuit sans nuages. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez 3 types de choses. Vous voyez la Lune, d'une part. Vous voyez une multitude d'étoiles qui bougent tout ensemble à la même vitesse, comme sur un papier peint qui défile. Et puis, vous voyez des étoiles un petit peu cheloues. Des étoiles qui, elles, bougent à leur propre vitesse, de façon indépendante. Pourquoi? Eh bien, parce que ces étoiles, les Babyloniens, ils le savaient pas, mais nous, maintenant, on le sait, eh bien, ce sont pas des étoiles. Ce sont des planètes du système solaire qui sont très proches de nous par rapport aux autres étoiles. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Et si vous y ajoutez la Lune, et le plus puissant de tous les astres, le Soleil, ça vous fait 7 astres et donc 7 jours. Alors je vous préviens, à partir de maintenant, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Les cultures anciennes, elles pensaient que tous ces astres tournaient autour de la Terre, alors que ce n'est vrai que de la Lune. Et donc, ils ont fait un truc qui paraît logique. Ils ont classé ces astres en fonction de la vitesse à laquelle il leur semblait qu'ils tournaient autour de la Terre. Du moins rapide au plus rapide. Ce qui fait...
Tout ça à l'œil nu, quoi.
Tout ça à l'œil nu. Ce qui fait Saturne, Jupiter, Mars, le Soleil, Vénus, Mercure et la Lune. Tous ces astres, en Grèce, puis à Rome, on leur a donné des noms de dieux qui sont ceux que je viens de citer. Et vous le savez déjà, ce sont ces noms qui ont donné leur nom au jour. Saturne, samedi, Jupiter, jeudi, Mars, mardi, le Soleil, Sunday, dimanche, nous on a appelé ça le jour du Seigneur à cause de ces Dei Dominici, Vénus, vendredi, Mercure, mercredi et la Lune, lundi. Mais là, vous allez me dire, parce que vous êtes... Là, ce serait le moment de m'interrompre. Parce que
pourquoi dans cet ordre-là? On interrompt toujours, mais jamais à bon escient.
Pourquoi dans cet ordre-là?
Pourquoi dans cet ordre et pas le nôtre?
Voilà, exactement. Vous allez me dire, mais c'est pas l'ordre des jours, ça, David. Ouais. C'est vrai, très bonne remarque, monsieur Stéphane Bern. Mais alors, comment est-ce qu'on a obtenu l'ordre actuel? Eh bien, si on a obtenu l'ordre actuel, c'est qu'il y a des astrologues du grec du 3e siècle avant Jésus-Christ qui ont décidé à un moment que chaque dieu représenté par une planète était responsable d'une heure de la journée. Genre, Saturne, le premier, il est responsable d'une heure, puis Jupiter, le deuxième, de l'heure suivante, puis Mars, de l'heure suivante, puis le Soleil, puis Vénus, etc. Sauf qu'il y a 24 heures dans une journée et seulement 7 planètes. Et donc, le deuxième jour, forcément, il commence pas avec le même dieu
que le premier jour. Et le troisième jour ne commence pas avec le même dieu que le deuxième. Et si vous vous amusez, si vous avez le temps, vous pouvez le faire, à écrire...
Est-ce que le mot amusement est vraiment ce qui lui convient?
Si vous amusez à écrire la liste des sept dieux sur les 168 heures que dure une semaine, vous verrez que le premier jour commence avec Saturne, samedi, le second avec le soleil, Sunday, dimanche, le troisième avec la lune, lundi, etc. Le quatrième avec Mars, mardi. Et c'est donc pour ça que les jours sont dans cet ordre-là. Je vous ai donc fait trois origines pour le prix d'une, puisqu'en plus des origines de la semaine de 7 jours, je vous ai fait les origines du nom des jours et les origines des raisons qui font qu'ils sont dans cet ordre-là.
Et depuis combien de temps considère-t-on que le lundi est le premier jour de la semaine?
Alors ça, c'est logique.
Une autre chronique.
C'est une autre chronique depuis quand le premier? C'est infiniment plus récent.
Alors les programmes télé commencent le samedi.
Que le programme s'est commencé le samedi. C'est beaucoup plus récent que ça, parce que pendant un moment, c'était le dimanche qui commençait la semaine. Il y a aussi des trucs en Angleterre, c'est pas ça. En Angleterre, c'est Tuesday, Thursday, etc. Parce que en fait, ils ont substitué les noms des dieux romains par des noms de dieux nordiques. Tuesday, par exemple, c'est le dieu Tug, je crois, qui a donné le jour de Tug. Voilà.
Mais ils compliquent tout, hein, les Anglo-Saxons.
Ils veulent pas penser comme nous. En tout cas, merci David, on a appris plein de choses et Dieu dans tout ça. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et évidemment sur le site europe1.fr.
Aujourd'hui, c'est bien qu'on retrouve tout en podcast parce que j'ai pas tout compris la première fois.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Maintenant que vous connaissez l'origine des jours de la semaine grâce à David Castello-Lopez, je propose de découvrir quelque chose de beaucoup plus simple. La tarte au citron, Olivier Pouls.
Vous savez, moi, comme David, j'ai aussi été enfant. C'était il y a longtemps.
On a vraiment du
un
mal
peu plus longtemps,
à vous imaginer.
Mais pas tant plus longtemps.
Il y a un peu plus longtemps. Mais j'ai aussi été enfant. Et c'était assez cool quand j'étais enfant. Parfois, c'était pas très cool quand à la cantine, il y avait de la langue de bœuf. J'aimais pas trop ça.
Oui.
Mais parfois, c'était hyper cool quand ma mère faisait de la tarte au citron meringuée. C'était mon dessert préféré. Et je me souviens la première fois qu'elle l'a fait, probablement au début des années 80, c'était tellement fantastique et nouveau chez nous à la maison que j'ai cru que c'était elle qui l'avait inventé.
C'est trop mignon.
Bon, malheureusement non, elle n'avait fait que recopier une fiche cuisine qu'elle avait trouvée je ne sais où, mais en tout cas, j'adorais ce dessert parce qu'en fait c'est une espèce de dessert parfait qui combine l'onctuosité d'une meringue, la force de l'acidité du citron enrobé par la douceur du sucre, tout ça avec le croustillant d'une pâte qui vient épouser le tout. Je trouve que c'est une forme de perfection et j'ai donc forcément voulu savoir, mais qui avait eu cette idée de génie de faire cette tarte au citron? Parce qu'en fait, cette tarte au citron, elle combine trois éléments qui sont très distincts dans l'histoire de la cuisine. Alors, il y a tout d'abord la fameuse garniture, donc c'est-à-dire cette crème au citron, qui elle provient du 18e siècle et qui vient de la communauté des Quakers en Angleterre, qui ont inventé donc cette espèce de crème de citron. Ensuite, les Américains ont eu l'idée d'en farcir une pâte croustillante avec cette crème, ce qui est la lemon pie, qui elle provient des États-Unis. Et puis à la meringue, qui elle a été inventée en Suisse par un cuisinier d'origine italienne en 1720 qui s'appelait Gasparini. Alors pour réunir tout ça, qui a eu l'idée de réunir tout ça? Eh bien, c'est une cuisinière américaine de Philadelphie, Elizabeth Goodwell, qui en 1806 a une idée de génie, c'est-à-dire qu'elle fait une lemon pie. Et quand on fait des lemon pie, on se retrouve souvent avec des excédents de blancs d'œufs dont on ne sait pas forcément que faire. Et elle a l'idée d'utiliser ces blancs d'œufs pour en faire une meringue qu'elle va mettre sur la tarte. Et donc, là naît la tarte au citron meringuée.
Je me suis toujours posé une question nutritionnelle, sachant que le blanc d'œuf, c'est là où il y a les protéines, c'est ce qui est bon quand on fait du sport. Est-ce que la meringue est bonne pour les sportifs?
Il y a trop de sucre.
Il y a trop de sucre, ça annule l'effet.
Il y a beaucoup de sucre dans la meringue. Et donc, pour vous donner la recette de la tarte au citron meringuée, donc la base, une pâte sablée, que vous pouvez faire ou acheter, évidemment.
Direct.
Voilà. Pour la meringue, il vous faudra 2 blancs d'œufs et 75 grammes de sucre. Et ensuite, l'appareil, cette crème au citron, c'est 120 grammes de jus de citron, une cuillère à soupe de maïzena, 120 grammes de sucre encore, je suis désolé, 130 grammes d'œufs. En pâtisserie, les œufs, on donne du poids parce que vous avez des petits œufs, des gros œufs, et donc c'est plus précis. Et puis 100 grammes de beurre pommade. Alors, ce que vous allez faire, c'est pré-cuire la pâte. Et ensuite, on réalise la crème au citron. Pour ça, on porte le jus de citron à ébullition et on le verse sur un mélange avec les œufs, le sucre et la maïzena. On verse ce jus de citron bien chaud. Et ensuite, sur feu doux, on va remuer de manière à ce que, comme une crème anglaise, on obtienne une texture qui est relativement solide. On va la laisser refroidir, puis on mixe avec le beurre pommade et on en garnit le fond de la pâte. On monte la meringue, c'est pas très compliqué, hein. Les blancs d'œufs en neige, on ajoute le sucre, on vient disposer avec une poche à douille la meringue par-dessus, et on dort avec un petit chalumeau, ou tout simplement sous le grill du four. Et on a ce contraste, voilà le moelleux de la meringue, l'acidité du citron, là ça m'a donné faim. Et je repense à la tarte au citron meringuée de ma maman.
Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1.
Et tout de suite, je vous défonce à la lutte finale.
Oui, bah
alors, justement.
Il allait pour terminer,
c'est pas de la tarte.
Non, c'est pas gentil.
On va voir si ce que vous avez dans le citron. on va jouer avec l'histoire, c'est la lutte finale.
Europe 1, historiquement vôtre.
Bon, vous connaissez le principe de la lutte finale, une question pour chacun. Est-ce que j'ai encore besoin de vous le répéter?
Non, vous n'avez pas besoin. En revanche, moi, j'aimerais que David nous réexplique les jours, là. Les jours.
Non.
Tu ferais un petit tableau.
Une question facile pour Olivier Pouls. Henri IV n'était pas surnommé pour rien le Vert-Galant. Voici la question. Avec qui a-t-il eu le plus d'enfants? Avec sa première épouse, que vous connaissez, hein, la reine Margot. Avec sa deuxième épouse. Ou avec sa maîtresse, Gabrielle Destrée?
Une question facile, c'est
ouais,
sympa.
Oui, ouais. Parce que...
Je connais pas tous les descendants d'Henri IV. Bon, je vais dire sa maîtresse, parce que je pense qu'il avait peut-être plus d'activités sexuelles avec elle. Et comme à l'époque, il n'y avait pas de contraception très efficace. Voilà, la maîtresse.
Non. C'est avec la reine, Marie de Médicis, sa deuxième épouse. C'est avec elle, il lui a donné 6 enfants, il y en a eu que 3 avec Gabriel Destré.
Une question sans piège, c'est rare.
Et combien avec la reine Margot? 0?
Bah 0, ouais, hein, mariage infécond, oui, bien sûr. Ils ont d'ailleurs divorcé très vite. David, le 21 février 2012, en France, une circulaire organise la suppression du nom de jeune fille, mais aussi de mademoiselle. Vous savez, dans les papiers administratifs. Mmh. En Allemagne, ça s'est fait avant ou après nous?
Est-ce que c'était avant ou après en Allemagne?
Oui. Avant 2012 ou après 2012, où on a supprimé les mademoiselles.
Mademoiselle. J'ai envie de
dire... Fraulein.
J'ai envie de dire après.
Oh non,
c'était avant.
1973.
Ah ouais.
On dit plus Fraulein. Mathieu Noël. Dans l'équipe
enfin
d'Historiquement
gagné.
Vôtre, parmi les personnes que l'on n'entend pas à l'antenne, il y en a un qui a un master d'histoire. C'est vrai ou faux?
Oui, c'est tout à fait possible.
Bah, oui, attends, c'est vrai.
Bah, parmi les gens qui nous aident à écrire les récits, Stéphane, il faut lire, on n'est pas tout seul. Hein, donc oui, il y a des gens qui ont des... Je dirais même qu'il y en a plus d'une personne. Oui, je dirais que c'est vrai.
Vous avez gagné avec une question qui n'a strictement rien à voir avec l'histoire.
Mais si, puisqu'il est question d'un master
l'histoire
d'histoire.
L'histoire de notre tambouille personnelle. Oui. Effectivement, qui Armelle Tiberge a un master d'histoire qu'elle a décroché à Paris, un Panthéon-Sorbonne. Elle prépare elle écrit parfois des récits aussi. Oui. Et elle est également amoureuse d'un des 8 techniciens d'Historiquement Vôtre.
Ah,
mais chute, respectons la vie privée des gens.
Oui, surtout que c'est un technicien qui est marié, déjà de son côté.
On vous a donné une victoire sur le plateau, là, je comprends
c'est
même
quoi,
pas.
C'est...
Pas du tout, c'est une très très belle
pourquoi
victoire.
Pourquoi une année dure 365 jours?
Une très très belle victoire de moi. L'émission se termine. Stéphane, c'était une émission qui était consacrée aux reines de la petite reine. Est-ce que ça vous a donné envie de filer chez Decathlon acheter un vélo?
Oui.
Vraiment, vous en avez un déjà?
J'en ai 3. J'ai 3 vélos.
Électriques ou pas?
Non, pas électriques justement, mais là je peine, donc je crois qu'il va falloir que je me mette à l'électrique.
Mais vous êtes en tandem, c'est Pépignot qui pédale devant.
Non, il n'y a personne.
Ah non, personne,
vous pédalez seul. Vous mettrez une éolienne pour avoir l'électricité.
Non, une éolienne.
Un beau projet d'éolienne. Alors, soyez prudents en tout cas, j'ai besoin de vous dimanche. À dimanche les amis, à dimanche.
Bien sûr Mathieu, à dimanche.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.